Au poste est en libre accès et fonctionne grâce à vos dons. Soutenez-nous sur auposte.fr.
Mediapart ne trouve pas le studio tout seul. Là, je me dis, ça a un peu baissé la qualité investigative de Mediapart.
Ah, moi, je ne suis pas du service enquête, hein, donc c'est plus compliqué pour moi. Je pars un peu avec un handicap.
Ah, voilà. je suis... Ah, le son est bon. Alors, j'avais fait une bonne blague. Est-ce que le son est bon, là, maintenant? Merde, j'avais fait une bonne blague. Ben, je la refais quand même. Oui, j'ai oublié de vous dire, c'est Théophile, pour la toute première, qui est à la technique. Mais là, ça y est, c'est bon. Alors, attendez, je recommence. Putain, c'est con, il était bon, le lancement. Bon, alors, OK. 3, 4. Amis du café, amis de la pensée pure, amis de Karl Marx façon hétérodoxe, de Guy Debord façon supporter, ami de Romaric Godin, bonjour.
Bonjour.
Romaric Godin, je le disais, c'est le bouquin, un des bouquins les plus puissants que j'ai lu ces 6 derniers mois, avec Merci lequel tu viens. Mais je vais être franc avec toi et avec les millions de gens qui nous regardent, les oppostiens, tous ceux qui sont sur le site en ce moment même, oppost.media. Tu travailles à Mediapart et t'es pas foutu de trouver le studio tout seul.
Oui, c'est la faiblesse, c'est parce que je ne suis pas au service enquête et donc du coup, j'ai encore des lacunes là-dessus. Il faut que je travaille encore.
Voilà.
Mais c'est donc, bien, il faut s'améliorer.
Donc le mythe Mediapart s'effondre en direct et ce n'est pas pour me déplaire. Oui, toi, tu es plutôt le service, comment on dirait, débat, idées, pensées.
Officiellement, maintenant, je suis au service international, mais je continue à faire de l'économie, évidemment. Et donc, je suis un pied au service économie, un pied au service inter. Et je fais beaucoup, effectivement, de débats intellectuels autour des questions économiques, quoi. Voilà.
Tu as déjà fait beaucoup d'entretiens autour de ce livre ou pas ?
Un petit peu. Pas non plus, voilà. Mais alors un petit peu.
je vais tenter d'être pertinent et original, mais ma première question va être très pénible. Qu'est-ce que c'est que ce titre ? Alors, on le comprend quand on le lit au départ. Le problème à trois corps du capitalisme... sur la gestion autoritaire du désastre et les moyens de lui faire face. Le problème à trois corps du capitalisme. Quelle est cette thèse, cette théorie scientifique que tu reprends à ton compte ?
En fait, c'est une théorie que j'ai moi-même repris effectivement d'un livre de science-fiction chinoise qui est sorti en français il y a une dizaine d'années et qui explique évidemment, enfin qui reprend un des problèmes de l'astrophysique, hein, qui est que quand on a trois soleils, en gros, il est incapable, enfin trois corps célestes qui interagissent les uns avec les autres, on est incapable en fait de déterminer leur trajectoire, et donc en fait on est dans une situation qui est par nature chaotique. Et donc l'histoire du roman, hein, c'est que le système céleste, le système solaire le plus proche du système solaire est en fait constitué de trois soleils, et donc il imagine une planète habitée qui est soumise en permanence à ce chaos, hein, des trois soleils, et donc toute l'histoire de cette planète, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe en fait, pourquoi il y a des moments d'extrême chaleur, d'extrême froid, de chaos permanent. Et ils comprennent finalement que le problème est insoluble. Et donc, la solution, c'est de quitter l'attraction de ce système pour aller vers un système plus stable, en l'occurrence la Terre. Donc, vous avez compris, c'est l'invasion des extraterrestres. Bon, c'est assez classique. Mais moi, je l'ai transposé dans notre Terre à nous et dans une vision beaucoup moins technosolutionniste, voire pas du tout technosolutionniste, qui constitue un peu le centre de ce roman de science-fiction, pour dire en fait, nous, dans notre monde qui est le monde du capital, en fait, hein, le monde du capitaliste, dominé par la force de l'accumulation du capital, l'équivalent de la gravité pour le système à trois corps physique, on va dire, en fait, la seule solution pour sortir du chaos dans lequel on est en train de s'enfoncer, hein, c'est de quitter l'attraction du capital et donc de changer de mode de production, en tout cas de changer d'organisation sociale.
Pimico, que je salue, nous dit « C'est une conjecture qu'on n'arrive pas à résoudre, un grand problème de la physique moderne. » Et effectivement, le chat nous dit, donc le nom de l'auteur, c'est Liu Cixin, et tu en parles, effectivement, ça a été adapté en série.
Pas très bien d'ailleurs, si je peux me permettre.
« Notre monde, écris-tu page 15, ressemble donc à celui de notre petite fable en ouverture de ce livre, c'est ce que tu viens de raconter. » Un chaos généralisé, couplé à une incapacité de l'autorité politique à ramener un semblant de stabilité, rappelant l'ancien monde idéalisé. De fait, derrière leurs discours volontaristes ou prétendument protecteurs, les classes dirigeantes de notre époque masquent de plus en plus mal leur impuissance. Grosso modo, nous allons parler du capitalisme qui n'est pas en crise, mais qui est la crise.
Exactement. En fait, l'idée, c'était vraiment... notamment contre un courant de pensée qui est beaucoup moins à la mode maintenant, mais qui a été beaucoup à la mode dans les années 2022-2023, hein, qui était celui de la polycrise après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors la polycrise, c'était cette multiplication de crises indépendantes les unes des autres, mais en même temps s'auto-entretenant, et qui, en fait, enfin, dans la vision des penseurs de la polycrise, il n'y a pas de centre, en fait, il n'y a pas de point de départ de ces crises. Et donc, la seule solution, c'est pas de régler les crises, parce que, en fait, bah, d'autres crises surgissent quand on les règle, voire même quand on les règle, on crée d'autres crises. Et donc la seule solution, c'est la fameuse résilience, hein, dont on parle tout le temps et partout aujourd'hui, qui est un peu le centre d'ailleurs des politiques publiques dans le monde entier aujourd'hui. Hein. Les plans de résilience, les hauts comités à la résilience, toutes ces choses-là se multiplient. Mais la résilience, en fait, hein, c'est une vision complètement conservatrice, c'est-à-dire c'est protéger, conserver le monde tel qu'il est, y compris lorsqu'il est chaotique et destructeur. Et moi, j'ai essayé d'expliquer ou de trouver en fait un point de départ de ce chaos. Trouver un point de départ, contrairement à ce que disent d'ailleurs beaucoup de gens de cette école de pensée, c'est pas du tout en fait simplificateur. C'est au contraire essayer de voir comment ce point de départ, qui pour moi est l'accumulation du capital, la crise du capital, comme tu l'as dit, pourquoi cette crise-là en fait prend des formes qui sont extrêmement diverses, extrêmement complexes, et donc c'est pas réduire la complexité du monde parce qu'on essaye de trouver en fait un point de départ aux crises de notre époque, c'est essayer de trouver ce point de départ pour pouvoir déterminer une action qui nous permette de sortir du chaos dans lequel on est actuellement.
Alors là, il faut quand même préciser d'entrée, d'ailleurs c'est demandé par Florent dans le chat, est-ce qu'on peut définir les trois corps, les trois corps qui sont en crise? Voilà, je te laisse prendre un petit peu d'eau.
Voilà. Alors les trois corps, en fait, que j'ai, je me suis inspiré d'un article qui a été publié début 2025 et dont j'avais rendu compte d'ailleurs dans Mediapart à l'été 2025. C'est ça qui m'a à l'été 2024.
Là, on voit bien,
pardon.
Là, on voit bien le côté Mediapart. Là, c'est voilà. Bon. Le placement de produit est fait.
Non, non, mais parce que en fait, c'est comme ça qu'on construit. C'est comme ça quand on est journaliste, qu'on construit les livres qu'on fait. Donc voilà. À partir de là, c'est vrai que
tu le racontes d'ailleurs très, très honnêtement.
Voilà.
Dans ton livre.
Et donc l'idée de ces trois corps, c'est quoi? C'est le premier corps, donc c'est la crise économique, hein, c'est la difficulté croissante qu'a le capital à réaliser cette dynamique qui lui est propre, qui est celle de l'accumulation, donc par le ralentissement des gains de productivité et de la croissance. Le deuxième corps, évidemment, c'est la crise écologique, c'est-à-dire la rupture d'une forme d'équilibre qui pouvait y avoir entre l'humanité et la nature dans son rapport, parce qu'évidemment, il y a des échanges entre les deux. Et la troisième crise, c'est ce que j'appelle la crise anthropologique, hein, qui est en fait la crise qu'il y a dans les individus et dans les sociétés, entre les besoins créés par le capital et les besoins issus eux-mêmes de la vie en fait sociale et de la vie individuelle. Et ça provoque évidemment des effets sur la santé mentale, mais la santé normale, la santé publique, sur évidemment des crises sociales, hein, puisque en fait le capital ayant de plus en plus de mal à s'accumuler, en fait il fait pression pression, notamment via les gains de productivité, il va faire pression sur les salaires et sur les conditions de travail. Et ça, évidemment, ça rend plus difficile de remplir toutes les promesses que le capitalisme déverse, en fait, sur les gens en permanence. Et donc, cette triple crise, elle est soumise, en fait, à deux logiques de force. Hein, une logique qui est, je dirais, horizontale. Chacune des crises est issue du développement du capital lui-même, hein, de sa dynamique propre, et puis en fait elles s'auto-entretiennent, c'est-à-dire que en fait, et c'est là où se ferme le problème à trois corps, c'est-à-dire que si on essaye de régler par exemple la crise économique, comme d'ailleurs on essaye de le faire actuellement par une espèce de fuite en avant ou technologique ou d'extraction de matières premières ou de répression sociale, bah en fait on va aggraver et la crise écologique et la crise sociale, et ça vaut en fait, si on essaye de régler chacune des crises indépendamment, tout ça parce qu'en fait, on reste dans un monde qui est dominé, qui est déterminé par la centralité du capital et de sa dynamique, qui est celle de l'accumulation. Et comme c'est ça, en fait, le cœur de la crise, en fait, quand on essaye de régler la crise de façon ponctuelle, bah, en fait, on ne règle pas le point de départ de la crise et donc on s'enfonce encore plus dans la crise. Et donc, c'est là où la métaphore du problème à trois corps prend un peu sens. Ouais.
Oui. Alors, on va, dans un premier temps, dresser le décor, brosser le portrait du monde dans lequel nous sommes. Alors là, bon, donc évidemment, là, tout le monde, personne ne sera surpris que les nouvelles ne sont pas très bonnes, mais à la fin de l'ouvrage, tu proposes ce que tu appelles des lignes de fuite, tu proposes des possibilités de combattre réellement toute cette crise, et grosso modo de s'attaquer à la racine, et donc de ne pas dire il y a trois crises et il faut les prendre indépendamment. Hein. C'est ce que tu reproches aux tenant de la polycrise qui en gros dit il y a une crise à résoudre, puis une autre. Toi, tu dis non, c'est dans l'ensemble qu'on doit prendre à bras-le-corps, sans mauvais jeu de mots, exactement, le problème à trois corps. C'est
exactement,
ça.
Parce qu'en fait, la question que je me suis posée, c'est finalement dans quel monde vit-on?
Comme disait Bernard Arnault.
Exactement. ce monde qui est effectivement de plus en plus chaotique et en fait, en tant que citoyens et individus, on a l'impression de s'enfoncer un peu de chaque jour un peu plus dans ce que j'appelle le désastre, hein, mais à la fois écologique, politique, géopolitique, voilà. Chaque matin, en fait, on en découvre de nouvelles. Et donc, moi, ce que j'ai essayé de voir, c'est comment ce monde s'organise, en fait. Pourquoi on en arrive là? Et donc, il se trouve que... Bon, voilà, j'ai un biais. Hein. C'est un livre qui s'inspire du marxisme originel, on va dire. Mais il se trouve que, voilà, si on comprend notre monde comme un monde capitaliste, c'est difficile de dire le contraire aujourd'hui, en fait, il faut comprendre que c'est bien cette force qui est la tendance au capitalisme à se reproduire en s'élargissant, hein, donc cette accumulation, qui fait que, en fait, toute la société se structure de la façon dont elle se structure. Donc, ce n'est pas seulement, en fait, la question économique. La question économique est une part importante, puisque, évidemment, le capitalisme, c'est une organisation économique de la société, et pas politique, comme pouvaient l'être des sociétés précédentes. Mais ce n'est pas uniquement économique. Le capitalisme, ce n'est pas uniquement un élément économique. C'est aussi une organisation sociale, c'est aussi un rapport à la nature, c'est aussi un rapport à l'individu. Donc, c'est aussi ça qu'il fallait essayer d'expliquer, hein, c'est vraiment de comprendre notre société comme une société qui a en son centre une force, et cette force, en fait, elle rayonne ensuite sur d'autres éléments. Après, évidemment, heureusement, il y a des éléments de notre vie qui échappent à la domination du capital, mais un des problèmes, c'est que c'est de moins en moins le cas.
Tu définis dans ton ouvrage, alors qu'il y a des questions en te demandant si tu t'inspires des réflexions de Nancy Fraser, tu pourras répondre si tu veux. Dans ton ouvrage, tu essaies de définir ce qu'est le capitalisme, tu essaies aussi de définir ce qu'est la crise, et notamment la crise du capitalisme. Admettons, je suis un actionnaire, j'ai plein de pognon, et pourtant j'ai l'impression d'être en crise. À quoi je fais face en tant que capitaliste, admettons? Quelle est ma crise?
La difficulté qu'on a quand on est capitaliste aujourd'hui, hein, c'est de continuer, en fait, à gagner toujours plus, avec un système économique qui produit, pas tout moins, mais qui produit de moins en moins de croissance, en fait. Et ça, ça suppose, ça ne veut pas dire, quand on dit ça, on a l'impression qu'on dit « Ah bah oui, mais alors ça veut dire que les capitalistes sont de moins en moins riches ». En fait, pas du tout. La question des inégalités, elle prend justement corps dans à cet endroit-là. C'est-à-dire que, en fait, il va y avoir une pression politique, économique, sociale du capital pour capter une part croissante du peu de croissance qui est produite, donc au détriment évidemment du monde du travail, hein, pour pouvoir en fait continuer à augmenter les profits, les dividendes, voilà ce qu'on appelle l'accumulation. Donc en fait l'enjeu il est là, il est que il est de plus en plus difficile en fait de produire de la croissance, mais que ça veut pas dire qu'il n'y a pas en fait pour le capital une part croissante de cette plus-value qui va leur revenir par rapport au travail. Donc c'est aussi à cet endroit-là que se place ce qu'il faut appeler la lutte de classe, c'est-à-dire que elle est redoublée, hein, contrairement à ce que j'entendais un sociologue macroniste il n'y a pas longtemps qui nous expliquait que la lutte de classe n'existait plus. Bon, il faut quand même être sacrément aveugle pour ne pas le voir. C'est-à-dire que c'est pas parce que en fait une grande partie du monde des travailleurs ne joue pas le jeu de la lutte de classe que cette lutte de classe n'est pas effective. Et en l'occurrence, elle l'est, et elle est jouée par la classe des détenteurs des capitaux qui, eux, évidemment, font de plus en plus pression parce que le gâteau croît de moins en moins vite. Donc en fait, pour avoir une part croissante d'un gâteau qui croît de moins en moins vite, il faut laisser encore moins aux autres. Et ça, c'est valable à la fois dans la dimension capital-travail qu'on vient de décrire, mais aussi entre les États. Et ça explique aussi pourquoi le monde dans lequel on entre aujourd'hui est un monde de conflit entre les États ou entre les grandes puissances ou entre les grands empires étatiques. Parce que le gâteau de la croissance croissant moins vite, les États, eux, veulent se préserver, évidemment, ou les empires, hein, veulent se préserver une part croissante de cette croissance moins forte. Voilà.
Tu dis que le moyen pour le capitaliste de quand même continuer à assouvir leur avidité, leur cupidité, enfin c'est quand même assez effarant, même si on les plaint un peu, parce que quand on lit les chiffres, on se dit « Ah ouais, les pauvres, c'est vrai, ils ont connu il n'y a pas si longtemps une belle croissance, puis là ils sont un peu dans la sauce depuis quand même 10-15 ans, même plus que ça. » Enfin, je trouve que c'est très intéressant l'aspect historique que tu ramènes.
Après, il ne faut pas les plaindre, parce que précisément, dans la répartition, ils s'en sortent mieux, puisque c'est eux qui ont le pouvoir. Mais effectivement, eux, ils sont soumis aussi à cette pression. C'est ça aussi que j'essaye de comprendre. C'est ce qui les rend féroces. Et c'est un des points, alors là, c'est que j'évoque dans ma dernière partie, donc je prends un peu d'avance, mais en l'occurrence, le fait que, pour aller vite, la bourgeoisie soit aussi, j'entends bourgeoisie au sens d'une classe qui possède le capital et qui le possède de façon majoritaire par rapport aux revenus du travail, que la bourgeoisie soit de plus en plus féroce ou même barbarisée, hein, s'explique parce qu'elle est aussi soumise à cette pression-là. Mais elle est incapable d'envisager la ligne de fuite. Elle est incapable d'envisager parce que, évidemment, son existence sociale dépend de cette accumulation. Donc, il y a quand même quelque chose qui est intéressant là, qui est que finalement, il faut sauver les capitalistes d'eux-mêmes d'une certaine façon.
Ah bah oui, c'est un peu... oui, bien sûr. Oui,
mais
oui.
Voilà, c'est un peu aussi l'idée qu'il faut aussi mettre en place.
Alors, tu dis que les différentes crises économiques de ces dernières années... Alors, d'abord, je dois dire que je suis frappé par le fait que tu t'attardes beaucoup, tu reviens très souvent à ce qu'on appelait le Covid, mais en fait le confinement, hein, comme un moment de bascule pour le capitalisme. Alors que moi, j'avais l'impression qu'on avait passé ce truc-là. Voilà, c'était un mauvais épisode. Non, toi, tu dis c'est plus que ça. Et ça, je trouve c'est intéressant. Si, à un moment donné, dans la discussion, tu peux revenir. Mais juste ce que je voulais dire, peut-être que le Covid peut en faire partie. Tu expliques que les crises économiques structurelles ne désarment pas le système, mais au contraire, ce système mobilise toutes ses forces pour assurer sa survie. Ça, c'est page 65. La férocité, les forces du capitalisme répondent en fait à pas uniquement de l'avidité, il y a autre chose qui se joue, sa propre survie. Donc, les capitalistes savent qu'ils sont quand même, d'une certaine manière, sur une... sur, oui, sur un gâteau qui se rétrécit. Donc pour eux, c'est la panique. Et puis le confinement, si jamais tu veux en parler. Et aussi la crise de 2008.
Ouais. Voilà. Alors, c'est pas un gâteau qui se rétrécit. C'est un gâteau qui croît moins vite.
Oui,
mais
pardon.
En fait, la question. Oui, ouais, mais c'est important parce que le gâteau qui se rétrécit, alors c'est pas exclure, hein, ça peut arriver. Mais.
Non, ça, bon, c'est les pauvres.
C'est un peu plus. C'est une situation qui est encore plus critique. Alors, excuse-moi, du coup, j'ai oublié ta question sur le gâteau parce que j'étais.
C'était sur la survie. Tu dis que les crises, au fur et à mesure, et ça, on l'a bien vu avec le confinement, c'est pour ça que on a vu les milliardaires devenir encore plus riches. C'est-à-dire que les crises renforce le système capitaliste qui provoque les crises.
Hein. Exactement. C'est un point, je profite de ta question pour insister sur un point. C'est-à-dire que, en fait, souvent, quand on est confronté à ce type de théorie, on dit « Ah ouais, mais en fait, ça marche pas, parce qu'il suffirait, en fait, de s'asseoir là sur le canapé, puis d'attendre que le capitalisme s'effondre tranquillement, puis on ramassera les miettes et tout ira bien. » En fait, ça se passe pas du tout comme ça. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que, en fait... Lorsque le capitalisme est soumis à une pression structurelle, donc à une crise structurelle, comme à mon avis c'est le cas aujourd'hui, en fait, il n'est pas en danger de mort. Il est simplement, en fait, il cherche les moyens de continuer à fonctionner comme il a l'habitude de fonctionner et comme il doit fonctionner, c'est-à-dire de réaliser cette accumulation en faveur des détenteurs du capital. Et donc, il mobilise, comme tu l'as dit dans l'extrait, il mobilise toutes ses forces pour continuer cette accumulation. Donc, il devient, en fait, plus destructeur pour tout le reste, en fait, pour le monde du travail, pour les individus, pour les sociétés, pour la nature, évidemment. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le chapitre 5, hein, que j'appelle le capitalisme d'état d'urgence. C'est précisément ça. En fait, cette pression entraîne, en fait, le capitalisme dans une forme d'état d'urgence permanent où, en fait, il va durcir son comportement, notamment en se débarrassant de ce qui l'ennuie le plus, hein, qui sont les formes démocratiques libérales dont il avait profité pendant très longtemps, mais qui ne sont pas, en fait, liées structurellement au capitalisme et qui, aujourd'hui, sont pour lui devenues un obstacle. Donc, on a un destin beaucoup plus autoritaire du capitalisme, précisément pour cette raison-là. C'est que le capitalisme, c'est un système qui est décentralisé et aveugle. C'est pas un système qui est géré par des hommes rationnels qui décident de déterminer les besoins, les choses. Pas du tout. C'est un système, même pas comme ça pouvait être le cas avant, par des gens personnellement qui veulent, par exemple, se construire un énorme château, devenir l'empereur du monde, enfin, j'en sais rien, ce genre de truc. C'est pas ça. En fait, c'est un système qui est impersonnel et aveugle. C'est un système qui détermine, en fait, les comportements des gens, y compris des gens qui détiennent du capital. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette fuite en avant destructrice, elle se fait je dirais, dans un déni généralisé que l'on voit d'ailleurs en permanence sur le plan politique aujourd'hui, avec les politiques de déni climatique, mais aussi de déni de toute existence de crise sociale, mais aussi de déni de toute existence de crise liée à la surconsommation, etc. Et évidemment, de déni de la crise économique, alors même qu'elle est évidente dans les chiffres. Mais ce déni-là, en fait, il n'est pas uniquement le produit de la malice, il est aussi un mode de survie du capitalisme. Et le prix à payer pour ce déni, c'est précisément la violence et la destruction. Et alors, pour revenir aux deux autres éléments de ta question, pardon, je suis un peu long, je veux pas trop être dans le tunnel.
C'est parfait.
Alors, la crise de 2008, c'est vraiment une rupture.
Faut rappeler. Hein,
la crise de 2008, donc, c'est une crise financière. Hein, oui. Les subprimes, qui sont des produits financiers qui ont permis, en fait, à des ménages américains pauvres d'avoir accès à la propriété. Évidemment, ces ménages, comme les salaires étaient sous pression, n'ont pas pu rembourser. Le système s'est effondré et a provoqué l'effondrement du système financier international qui a été sauvé par les banques centrales et les États. Et c'est là où je pense qu'il faut qu'on soit attentif. C'est-à-dire, comme tu l'as dit d'ailleurs pour la crise Covid, on a, nous, le sentiment, enfin, nous, quand on regarde de loin, en fait, les affaires économiques, on a le sentiment que, bah voilà, on nous dit, ah bah, on a retrouvé le niveau de PIB d'avant la crise, tout va bien, c'est parti. En fait, il ne faut pas regarder comme ça. il faut regarder en fait les tendances de croissance, c'est-à-dire les rythmes d'accumulation en fait. Si vous avez une tendance de croissance qui commence à se casser, en fait, vous allez avoir précisément ce phénomène qu'on a expliqué, hein, de gâteau qui croît moins vite et donc de pression en fait sur le capital pour pouvoir augmenter sa part. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la crise de 2008, dont on n'est toujours pas sorti en termes de tendance. On est très loin de la tendance pré-2008. On peut la mesurer de plein de façons différentes, mais quelle que soit la façon dont on la mesure, on est très très loin de la... Et y compris aux États-Unis qui pourtant ont une croissance supérieure à l'Europe. Pour le Covid, alors aux États-Unis c'est un peu différent parce qu'il y a eu une politique un peu particulière, mais on pourra en reparler, mais pour le Covid, on a eu exactement la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu une croissance en V, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a eu une très forte hausse et puis une très forte baisse en 2020, une très forte hausse en 2021. Mais en termes de tendance, on est encore loin de la tendance pré-Covid et on a aussi une cassure. Donc, alors, sur la crise du Covid, je suis content que tu le dises parce que dans ce livre, je rentre pas dans le détail hein, de ça, mais je pense que en fait, sur les trois crises que j'identifie, hein, que ce soit la crise économique, anthropologique ou écologique, je pense que vraiment il y a une cassure avec la crise Covid. Et la crise Covid aujourd'hui, et c'est bien normal, on veut pas trop y revenir parce que c'est pour beaucoup de gens bien pas sûr, trop une bonne un beau souvenir. En même temps, là, ça fait 6 ans, donc on doit pouvoir faire un retour. Mais je pense que vraiment il y a quelque chose qui s'est cassé à ce moment-là. Et il y a une accélération. Il y a une accélération
qui s'est cassée pour le système capitaliste. Donc nous sommes victimes de cette cassure avant les actionnaires. Mais ce que je veux dire, c'est que dans mon esprit, la crise du Covid était avant tout une crise sanitaire. Si tu veux, je ne mesurais pas et je l'ai fait grâce à toi et je te remercie que c'était en fait plus que ça. C'est-à-dire que c'était aussi ça a redistribué un peu les cartes finalement.
Exactement. Bah d'abord c'est une crise sanitaire. Bon, les origines on va pas rentrer dans le détail, mais oui. C'est une crise sanitaire, mais c'est aussi une crise de la mondialisation. C'est-à-dire que la façon dont cette crise sanitaire se répand, elle suit en fait hein, les routes de la mondialisation. Donc c'est aussi une crise de la mondialisation sanitaire, mais aussi économique. C'est-à-dire qu'on se rend compte à ce moment-là des dépendances des pays consommateurs, hein, comme le nôtre, par rapport aux pays producteurs. Alors que jusqu'ici, on pensait que, de toute façon, la mondialisation fournissait tous les produits dont on avait besoin à bon marché, et voilà. Donc ça, c'est la première... C'est aussi le premier élément de la crise. Et puis c'est aussi... le fait que, effectivement, comme tu le dis, ça redistribue les cartes avec des pays qui vont s'en sortir beaucoup mieux, des pays qui vont s'en sortir un peu moins bien. Donc, les États-Unis vont s'en sortir un peu mieux. La Chine, en fait, va connaître une vraie rupture avec la suite du Covid qui est sa crise immobilière. Mais du coup, elle va se lancer dans une fuite en avant pour regagner des parts de marché. Et donc, en fait, là, on est en train de vivre un deuxième choc chinois, c'est-à-dire que maintenant, la Chine est présente sur les produits notamment vendus par les Européens, donc un peu plus haut de gamme que ceux d'avant. Et donc, en fait, elle est en train de gagner des parts de marché à ce niveau-là. Donc, en fait, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment une crise qui est extrêmement importante pour notre... qui structure, en fait, vraiment notre modernité. Et puis, il y a quelque chose là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça mériterait vraiment de sortir du sujet, mais qui mérite, à mon avis, d'être dit, c'est que l'ascension de l'extrême droite en Occident connaît un coup d'accélération après la crise du Covid, hein, en 2022. Alors, un peu moins en 2021 en Allemagne, mais à partir de 2022, on voit vraiment cette accélération un peu partout.
Question du chat, avant de reprendre la lecture de ton livre, est-ce que cette crise amène... Alors, je cite de mémoire, oui, voilà, pardon, Trognon. Est-ce que cette pression a tendance à pousser les capitalistes, cette pression sur le capital, hein, a tendance, et on est bien d'accord, on n'est pas là pour les plaindre, mais pour mieux comprendre le mal qui nous est fait, en fait, hein, c'est-à-dire qu'on, c'est nous qui pensons leurs blessures, entre guillemets, a tendance à pousser les capitalistes, cette pression a-t-elle tendance à pousser les capitalistes à la concurrence entre eux ou à la solidarité de classe ?
Plutôt à la concurrence, mais c'est une concurrence qui va se réorganiser, en fait.
En bonne intelligence, quoi.
Ouais, non, mais bah, pas forcément, parce que, en fait, je pense que, notamment, les tensions géopolitiques que l'on connaît, c'est une forme de concurrence, en fait, entre les capitalistes. On en reparlera peut-être, mais un des éléments que j'identifie du capitalisme d'état d'urgence, hein, dans capitalisme d'état d'urgence, il y a un état avec une majuscule, c'est que précisément, en fait, il y a une fusion entre l'état et le capital dans les grandes puissances économiques du monde, et que donc l'intérêt des états et l'intérêt du capital tendent à se confondre, et que effectivement, bah, la concurrence entre les états, c'est aussi une concurrence entre des capitalistes pour pouvoir avoir accès à des marchés et à des ressources. Et ça, effectivement, ça entraîne des tensions géopolitiques très fortes que l'on voit notamment aujourd'hui. Mais il y a quand même cette forme de concurrence, mais elle est réorganisée. Il y a aussi une façon pour les capitalistes d'essayer d'échapper à la concurrence, parce qu'effectivement, la concurrence, ça va tendre à durcir encore l'accès à ce fameux gâteau. Hein, ça rend plus difficile l'accès à ce fameux gâteau. Donc, il y a cette façon d'échapper à la concurrence en développant des rentes, c'est-à-dire des revenus qui sont sécurisés, qui ne sont pas soumis ou qui sont moins soumis à la concurrence et au marché que les autres. Donc, c'est une question qui est un peu complexe, c'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, il y a une augmentation de la concurrence entre les capitalistes, ce qui est normal, puisqu'il y a effectivement cette pression. Et puis, en même temps, il y a une réorganisation du capital pour échapper à cette concurrence.
Alors, dans ton livre, il est question de cette rente, de capitalisme de rente ou de la rente du capitalisme. Et tu donnes un exemple, c'est l'écosystème Apple, qui est, je trouve, extrêmement parlant, mais parce qu'au départ, pour moi, le capitalisme était un truc de rente. Mais en fait, non, c'est une forme particulière. Est-ce que tu peux l'expliquer ?
Oui, alors, en fait, là, c'est un peu... Il y a eu deux livres, un de Cédric Durand, qui était plus modéré, et un de Yanis Varoufakis, donc l'ancien ministre grec. Finances, qui s'appelle Techno-féodalisme. Alors, ça, c'est en français celui de Cédric, mais... techno-féodalisme, en anglais, c'est celui de Yanis Varoufakis, et qui expliquait qu'en fait, on sortait du capitalisme parce que, précisément, notamment les entreprises technologiques, essayent de préserver une rente, c'est-à-dire une sécurisation de leurs revenus via tout un système de dépendance, en fait. Hein, c'est-à-dire que, le système Apple, c'est-à-dire qu'on doit tout faire Apple, sinon, en fait, on perd ses données, c'est compliqué, voilà.
Donc, le but d'Apple, c'est de nous vendre un iPhone pour surtout qu'on soit... prisonnier de son système, et donc acheter un ordinateur, etc. Mais qu'en fait, ce qui compte, c'est son nos données, sur lesquelles en plus ils capitalisent, mais qui nous emprisonnent dans leur...
Les données, en fait, sont les matières premières de ce qui rapporte, en fait, de l'argent à l'entreprise. Et ces données sont, en fait, nous emprisonnent dans un système et donc nous obligent à acheter les produits de ce système-là. Donc c'est une sorte de monde fermé qui d'ailleurs, là, c'est là où la rente est particulière. C'est-à-dire que ce n'est pas totalement indépendant d'un système concurrentiel primaire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs rentes concurrentielles, mais en fait, une fois qu'on est dedans, le coût de sortie est très compliqué. Et surtout, le coût de sortie induit, en fait, de passer d'une rente à une autre. Donc, ce n'est pas forcément très intéressant. Donc, ça, c'est...
Là où le capital, dans l'esprit marxiste du terme, me semble-t-il, est là d'abord pour faire de la production, c'est-à-dire posséder les outils de production et faire des bénéfices et engranger du pognon.
Voilà. Et donc là, on voit que ça sort complètement, en fait, de ce schéma-là, c'est-à-dire du schéma je mobilise du capital pour créer une marchandise, la vendre et engranger de la plus-value par rapport au prix de production.
Là, c'est donc...
Donc là, en fait, il n'y a pas de production, en fait. Enfin, il y a une production, mais la production, elle est d'abord sous-traitée, et c'est qu'un élément du système qui n'est pas central dans le système. Mais là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Varoufakis, hein, c'est que Varoufakis dit, en fait, comme il n'y a plus de marché... Du coup, on est sorti du capitalisme. Et moi, je pense que, en fait, c'est pas ça. Le capitalisme, il a évidemment historiquement, il dépend des marchés, il s'est développé autour des marchés, mais il existe un capitalisme, en fait, qui peut être indépendant des marchés. C'est ce qui s'est développé dans une tradition marxiste qui critique le capitalisme d'État. Le capitalisme d'État, c'est par nature un capitalisme qui s'extrait de la concurrence et des marchés, mais qui continue, en fait, à fonctionner autour de la centralité de la force de l'accumulation, autour de la production de valeur. Donc, en fait, moi, j'essaye de dire que ce qui fait le capitalisme, c'est ça, c'est la centralité de la production de valeur. Et en fait, ces rentes-là ne sont pas contradictoires avec l'existence de la centralité de la production de valeur, parce que l'argent qui va à la rente, il est toujours issu, en fait,
bien sûr,
du travail et de la plus-value générée par les activités économiques traditionnelles. Sauf que la rente, elle fait exactement ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire elle va capter une partie croissante de la valeur produite pour son propre compte. Et c'est aussi un des éléments du capitalisme d'état d'urgence, hein, d'être un capitalisme prédateur. C'est-à-dire que c'est un capitalisme qui travaille pas au sens où on peut l'entendre traditionnellement, y compris ne fait pas travailler son capital, mais au contraire va saisir en fait la plus-value créée ailleurs pour pouvoir l'accumuler de son côté.
Alors, tout à fait. Autre chose, tu l'as évoqué il y a quelques instants, c'est le lien entre les crises militaires et le capitalisme. Page 98, dans le chapitre toujours « La crise au cœur du capital », tu écris « La guerre a été… » Alors évidemment, pourquoi je lis ça? C'est parce que ça rappelle des choses qui se passent un petit peu avant que tu aies terminé ton livre. Enfin, un petit peu après, tu as terminé ton livre, pardon. La guerre a été un élément central de l'histoire du capitalisme, notamment pour dépasser les crises et stimuler les technologies. Dans les années 1890, comme dans les années 30, cette contre-tendance a été mobilisée pour contrer les dépressions économiques. Pour le capital, produire des armes ou du pain est indifférent, car seul compte la plus-value produite. L'ennui, c'est que les usages demeurent malgré tout. Et celui des armes conduit bien, in fine, à la guerre. C'est à ce prix que le capitalisme a survécu, par deux fois déjà, et nous en sommes à nouveau là. Logiquement, donc, la situation actuelle ouvre la possibilité d'une conflagration militaire à haute intensité, et partant, elle impose à nouveau une militarisation de l'économie mondiale. Donc évidemment, moi je pense à Trump et à l'Iran. Quand je lis ça, est-ce que je me gourre ou pas ?
Non, tu ne te trompes pas, mais c'est pas seulement Trump et l'Iran, en fait.
Et voilà.
Si vous voulez, l'Europe est en train de se réarmer. La Russie est un pays déjà dont l'économie est déjà en voie de militarisation et la fuite en avant militaire a été réalisée en 2022 avec des effets en fait positifs sur la croissance à court terme de la Russie. Donc un pays qui était en panne de croissance depuis 20 ans et qui a rebondi grâce à la guerre. Donc c'est un peu ce que j'essaye là de raconter. Mais la Chine, évidemment, investit 7%, plus 7% chaque année en dépenses militaires. Donc, c'est quand même un élément important. Et le Japon vient d'annoncer qu'il développait son budget militaire. Donc, en fait, c'est généralisé. Et ça correspond bien à ce que j'essaye de décrire. C'est que il y a une double fonction. Il y a la fonction de concurrence, évidemment, entre les capitaux nationaux ou régionaux. Et pour en fait jouer cette concurrence, il faut se développer les dépenses militaires. Et puis le fait que en fait quand on manque de croissance, la dépense militaire c'est en fait un jackpot quoi. Ça fait repartir très très vite la croissance, ça crée des emplois, c'est formidable. Sauf que évidemment le problème c'est quand vous fabriquez des mugs, bon bah il faut que vous vendiez vos mugs. Bah là en fait il faut que vous vendiez vos armes. Donc soit vous pouvez pas vous contenter en fait de les stocker indéfiniment. Il faut soit en fait organiser ce qu'on appelle des guerres de proxy, soit mener des guerres soi-même et pour en fait pouvoir renouveler les stocks. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce que tu évoquais aussi dans l'extrait, hein, ce que j'ai écrit dans l'extrait, c'est le fait qu'il y a un nœud en fait entre la technologie aujourd'hui et enfin ça a toujours existé d'ailleurs, entre la technologie et la dépense militaire. C'est-à-dire que l'usage militaire des technologies développe des usages usage civil, en fait. Et donc, créer des nouveaux marchés...
Alors ça, on va y venir, puisque tu as plusieurs chapitres consacrés notamment à l'intelligence artificielle généralisée, hein, parce que tu l'appelles IAG. Et je vois que dans le chat, donc, je mets des questions de côté sur comment l'IA est peut-être en train de, provisoirement, sauver le capitalisme. Mais allons-y petit pas par petit pas. Tu écris également, alors là, sur le chapitre... juste, attends, excuse-moi, j'ai une idée qui m'est passée par la tête. Les trois corps dont on parlait tout à l'heure, s'il y a une forme d'attraction, de gravité, etc. Comment on peut se faire la guerre mondiale dans un monde mondialisé ?
Alors ça, cette question, elle est intéressante parce que...
Je vous en prie.
Non, mais parce que moi, ça me fait toujours penser... Il y a un texte qui est sorti, en fait, au début de l'année 1914, un texte anglais, qui expliquait que la guerre mondiale était absolument impossible parce que, en fait, les économies mondiales à cette époque-là étaient complètement interdépendantes. Mmh. Et ce texte expliquait de façon très, très savante que, bien sûr, l'Allemagne ne déciderait jamais de déclarer la guerre, ou l'Angleterre ne déciderait jamais de déclarer la guerre à l'Allemagne parce qu'en réalité, bah, l'Angleterre dépendait des produits allemands et inversement. Donc ça, c'est évidemment le rêve du doux commerce de Montesquieu. Hein. Le commerce est une forme de guerre, je dirais, douce, et donc douce, bah, empêche... je dirais les guerres chaudes, quoi. En fait, la réalité, c'est l'inverse. C'est que la mondialisation, c'est l'interdépendance et c'est aussi la concurrence. Donc, lorsque on a un ralentissement de la croissance, la concurrence, elle devient plus forte et l'interdépendance, on essaye de s'en extirper. Et pour essayer de s'extirper de l'interdépendance, comme on est dans une forme d'interdépendance quand même assez forte, bah, on essaye de se créer des zones d'influence, en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout rapatrier, toute la production, par exemple aux États-Unis, mais on va essayer de se créer un hinterland productif qui nous soit politiquement fidèle, en quelque sorte. Et évidemment, dans ce cadre-là, puisque la production est mondialisée, on entre en concurrence avec les autres qui veulent faire la même chose et qui, évidemment, veulent aussi avoir la main sur les ressources et sur les marchés. Et donc, évidemment, on rentre à ce moment-là dans une concurrence qui débouche inévitablement à un moment sur des conflits soit régionaux, soit généralisés.
Page 112. Contrairement à ce qu'ils croient eux-mêmes, ce ne sont pas les capitalistes qui gouvernent le capital, mais le capital qui les gouverne. Voilà bien une phrase très debordienne. Il va falloir nous l'expliquer, monsieur Godard.
Ben, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. C'est-à-dire, moi, l'idée que j'essaye de développer, hein, c'est que donc, le capital et sa dynamique est au centre de notre société et que, en fait, et le capital, il médiatise tous nos rapports sociaux, en fait. Il est au cœur de tous nos rapports sociaux. Ou, heureusement, pas tous, mais une grande partie, on va dire, une immense majorité de nos rapports sociaux. Quand je dis tout, hein, c'est pour aller plus vite, mais évidemment, bien sûr, il y a toujours des choses qui échappent, heureusement. Bon. Et donc, les capitalistes eux-mêmes, ils n'échappent pas à cette chose-là. Ils sont, en fait, soumis à l'exigence permanente de devoir accumuler. Notre ami Bernard Arnault, qu'on aime, toi et moi, il a un âge avancé. Ce que je dis dans mon livre, il pourrait acheter une villa dans la campagne toscane et puis...
acheter la Toscane.
Ouais, il pourrait acheter la Toscane. Mais bon, ça, il n'en a même pas besoin. Donc, il pourrait acheter sa villa et siroter en regardant la campagne ou en faisant ce qu'il veut. Il pourrait écrire, il pourrait, je ne sais pas, il pourrait faire plein de choses. Mais en fait, non. Ce qu'il a obtenu, c'est que de l'AG de LVMH, c'est de pouvoir repousser jusqu'à 85 ans sa présence au sein du groupe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme il déteste ses... Faut pas le dire comme ça, mais comme il n'a pas très confiance, on va dire, en ses enfants, il considère qu'en fait, sa fonction, c'est de continuer l'accumulation. Donc, il est complètement, en fait, esclave de cette chose-là. Ça le rend pas plus sympathique.
Non.
Mais ce que je veux dire, c'est que... ce qui le rendrait sympathique, c'est effectivement s'il décidait de tout abandonner. Mais bon, ceci dit, il le transférerait à d'autres qui auraient les mêmes problèmes dans la société dans laquelle on est. Mais les capitalistes eux-mêmes sont en fait les esclaves du capital. Ils le sont exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont jamais satisfaits. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont aussi barbarisé aujourd'hui, aussi hargneux, aussi furieux, aussi féroce avec le monde du travail, parce qu'en fait, ils sont incapables à un moment de se dire, mais en fait, on va à la destruction. Et cet aveuglement, il n'est pas lié au fait qu'ils soient des imbéciles, au contraire, il est lié au fait que, en fait, au cœur de leur vie, il y a l'accumulation parce qu'ils se définissent comme ça, ils sont, comme leur vie dépend du capital, bah, en fait, ils sont dirigés, déterminés par la force qui guide le capital lui-même.
Malgré le risque qui pèse sur leurs intérêts vitaux, écris-tu, la priorité de l'action des capitalistes ne peut être inversée. L'impératif d'accumulation continue de dominer. Toutes les mesures de lutte contre la crise écologique, c'est là où je voulais en venir avec toi, ne peuvent être prises que dans ce cadre. Et ont pour but de le préserver, toutes les mesures de lutte contre la crise écologique. Donc là, tu vas beaucoup plus loin que la condamnation du greenwashing, des choses comme ça, mais là, tu expliques que le déni climatique, a une fonction pour les capitalistes.
Oui, parce que, et ça, on le voit très bien, c'est-à-dire... dans les années 2010, on pensait que la croissance verte allait permettre en fait, de relancer l'accumulation. Et donc, effectivement, il y avait beaucoup d'insistance sur la transition écologique, la croissance verte, les énergies renouvelables, etc. Bon. En fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas, ça ne marchait pas. D'ailleurs, si on parle de l'IA après, il faut avoir ça en tête. C'est-à-dire que les nouvelles solutions, les promesses que les crises sont réglées, on en a 3 par an depuis 10 ans, depuis 30 ans même. Donc, ça n'a pas fonctionné, mais ça n'empêche qu'effectivement, ces formes de lutte, entre guillemets, contre la crise écologique n'étaient mobilisées que parce qu'elles avaient un aspect rentable ou un aspect potentiellement rentable. Le problème, c'est que... qu'est-ce que ça veut dire un aspect potentiellement rentable? Ça veut dire qu'en fait, elles s'inscrivent dans une logique de croissance. Il faut toujours, si on remplace effectivement les énergies fossiles par des énergies dites renouvelables, il faut que ces énergies renouvelables, elles assurent de la croissance. Et donc, il faut qu'il y ait de plus en plus d'installations d'énergies renouvelables. Et le problème, c'est qu'effectivement, pour installer des énergies renouvelables, bah, il faut les fabriquer, il faut les installer, donc il faut bétonner. Et évidemment... tout ça, ça a des effets sur la crise écologique. La crise écologique, ce n'est pas seulement le réchauffement climatique, c'est le dépassement de 6 des 9 limites planétaires. Donc, à partir de ce moment-là...
Qui sont actées.
Et avec, évidemment, les 3 autres qui sont mal partis. Donc, si on limite, effectivement... et c'est une des fonctions d'ailleurs de toutes les choses qui sont faites, les accords de Paris, etc. C'est de limiter en fait la crise écologique à la question des émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi ? Parce que là, le capitalisme prétend avoir une solution. Le problème, c'est qu'en fait, cette fuite en avant, elle a des conséquences en fait ailleurs en termes écologiques, et elle a des conséquences également en termes économiques, puisque en fait ce qu'elle remplace ne produit, enfin il n'y a pas d'augmentation de la croissance, il y a un remplacement, mais il n'y a pas d'augmentation suffisante de la croissance pour pouvoir alimenter l'accumulation. Par ailleurs, comme la Chine a décidé de se lancer là-dedans et d'avoir un monopole, on revient au capitalisme de rente dont on parlait, ça provoque des crises sociales et économiques. C'est le fameux choc chinois dont je parlais, qui est sur le solaire et l'éolien maintenant bien établi. Et donc, en fait...
Alors, tu dis bien établi pour quelqu'un comme toi qui a le nez dans ces questions-là. Est-ce que tu peux le...
La Chine a utilisé pleinement en fait la force du capitalisme d'État pour pouvoir vendre à des prix extrêmement faibles des produits de bonne qualité, des produits de qualité quasi identiques à ceux qui étaient produits en
Europe,
Occident, pour le solaire et l'éolien. Et de cette façon-là, en fait, l'essentiel de la production en fait européenne a été englobé par les Chinois. Ce qui se passe d'ailleurs aussi avec les voitures électriques en ce moment, c'est en cours. Et ça, effectivement, c'est un élément qui est fondamental, parce que ça veut dire que, encore une fois, on n'est pas dans une logique où le capitalisme augmente, croît de façon globale. Mais on est dans une logique où, en fait, chaque partie du capitalisme essaye d'avoir une vision prédatrice sur une part du gâteau qu'il doit augmenter pour lui-même. Et donc ça, en fait, ça ne règle pas le problème économique. Et puis, évidemment, ça provoque des problèmes sociaux parce que, en fait, si toutes les voitures électriques, par exemple, sont fabriquées en Chine ou une grande partie des voitures électriques sont fabriquées en Chine, les changements de la production automobile en Europe ne sont pas possibles. Et donc, on va avoir une nouvelle vague de délocalisation ou de destruction de l'industrie occidentale, avec les conséquences que ça a en termes sociaux et en termes d'emploi. On voit bien que la solution capitaliste pour la crise écologique n'en est pas une. Et d'ailleurs, elle n'en est tellement pas une que les capitalistes reviennent eux-mêmes là-dessus, en détricotant, en fait, les normes qui étaient faites, en fait, pour soutenir, en fait, le développement du capitalisme vert. Et aujourd'hui, en fait, comme ce capitalisme vert n'est pas suffisamment producteur de croissance, en fait, on détricote les normes pour pouvoir se relancer dans un capitalisme brun et une fuite en avant, parce que effectivement, l'élément fondamental de l'époque, c'est le déni, et c'est exactement ce qui est en train de se faire aujourd'hui aux États-Unis, mais aussi en France. La loi du plomb, c'est ça. En
fait. La loi du plomb, c'est ça. Alors, je te trouve un peu vache, parce que quand même, tu donnes à un moment donné un exemple ahurissant de capitalisme qui, en gros, a déjà compris que la planète est en feu, qu'il va falloir installer des nouveaux marchés à des millions de kilomètres. Est-ce que tu peux raconter ce message
Doritos
de 2008?
Oui,
visiblement.
Bon, c'est un peu anecdotique, mais
c'est beau.
Je trouve que
écoutez,
c'est pas
bien, écoutez bien,
et,
les amis.
Et surtout, ça fait écho en fait à plein de choses qu'on a aujourd'hui.
Alors, les faits.
Donc les faits en 2008, évidemment, donc au Svalbard, donc dans une île au nord de la Norvège, il y a une station spatiale et une station d'émissions de radio vers l'espace. Et donc là, on a lancé un message publicitaire pour les chips Doritos qui vise un système stellaire bien précis où on estime qu'il y a une vie possible. Donc c'est, je ne me souviens plus exactement du détail, mais c'est plusieurs centaines d'années-lumière de nous. Et donc, on a envoyé ce message publicitaire pour les chips Doritos à ce système solaire.
Qui ressemblerait au nôtre et où il pourrait y avoir...
Ce sont des consommateurs potentiels pour les Doritos.
Je crois que le message leur parviendra en 2050, me semble-t-il.
Le temps que ça revienne, ils auront le temps, si Doritos produit toujours des chips. Mais sinon, de toute façon, ils auront d'autres marques de chips à leur disposition. J'ai trouvé que c'était assez, effectivement, au-delà, évidemment, de l'anecdote un peu absurde, c'est effectivement cette idée que la force de l'accumulation, elle ne connaît aucune limite, en fait. Et c'est en fait ça, une des bases de la crise actuelle, c'est ça. C'est d'un côté, on a une force qui dirige la société et qui est une force illimitée, celle de l'accumulation. L'accumulation doit se faire de façon illimitée et pense avoir les moyens techniques de le faire. Et de l'autre côté, il y a la réalité de cette accumulation, c'est-à-dire son impact sur la réalité vécue et puis aussi les conditions de cette accumulation. C'est-à-dire, est-ce que effectivement la production est suffisamment rentable à certains endroits. Donc il y a vraiment cette dichotomie qui est au cœur, en fait, aujourd'hui de la crise entre un capital qui est dans une fuite en avant, y compris pour aller vendre des chips dans l'espace, ou comme le veut Musk, d'aller construire exactement la même planète avec les mêmes problèmes sur Mars ou sur une lune de Jupiter. Et la réalité, en fait, qu'on vit tous et qui est une réalité qui se dégrade, en fait, de plus en plus.
On va passer à une autre logique de croissance folle, pas la croissance, mais la logique. Mais je m'en voudrais si je ne relevais pas, page 167, cette petite phrase qui va réveiller ceux qui sont encore dans leur lit douillet. Ils ont bien de la chance. Écris-tu, page 167, Emmanuel Macron, qui est peut-être la plus parfaite incarnation humaine du capital. Alors là, Monsieur Godin, je voudrais savoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que tu veux dire par Emmanuel Macron, qui est peut-être la plus parfaite incarnation humaine du capital, a ainsi expliqué en 2020.
C'est pas la meilleure phrase du livre, sans doute, mais...
j'en ai souligné beaucoup.
En fait, moi, quand j'entends...
C'était par rapport à cette idée de, où il nous disait « personne ne veut revenir à la lampe à huile,
voilà,
etc. »
En fait, quand j'entends Emmanuel Macron, bon, je le suis depuis très longtemps, j'avais écrit en 2019 déjà un livre sur lui, donc là, bon, je le cite en passant, mais c'est pas sur lui. Mais en fait, j'entends en fait, la voix du capital, c'est-à-dire j'entends cette pression constante de l'accumulation. Et je vois en fait quelqu'un qui cherche, précisément comme on l'a dit tout à l'heure, qui cherche en permanence des solutions pour pouvoir maintenir en fait cette accumulation dans un monde qui en fait est en contradiction avec ça. Et je trouve que en fait à chaque fois qu'on pourrait, j'aurais pu faire ce livre. Alors, encore une fois, je voulais pas le faire parce que j'en ai pour tout dire, j'en ai un peu marre de lui en fait. Mais je crois que je suis pas le seul. J'aurais pu en fait faire ce livre en utilisant les discours d'Emmanuel Macron en quelque sorte. C'est un peu ça que ça veut dire. C'est pas pour le déshumaniser, pas du tout. Mais au contraire, c'est pour montrer que en fait, la classe des capitalistes, elle fonctionne comme ça. C'est-à-dire que en fait, elle fonctionne en retransmettant à la société la pression en fait de cette dynamique interne au capital. Et donc Emmanuel Macron, il coche toutes les cases, comme on dit en journalisme politique. Il fait du technosolutionnisme, il fait du déni de crise économique, de crise écologique, de crise sociale en permanence. Il soutient par sa politique l'accumulation au détriment du monde du travail. Bon, ça, c'était le livre d'avant. C'est un peu, voilà. Alors, évidemment, là, j'ai un peu forcé le trait, on va dire. Mais bon, ça fait partie aussi du jeu de l'écriture.
Et du plaisir du lecteur.
Et du plaisir du lecteur. Mais voilà, c'est un peu cette idée-là de dire vraiment, si on veut aussi comprendre, parce que. Lui, en plus, en tant que politique, il a moins de... il doit prendre moins de forme que le font les grands patrons qui sont soumis justement à leurs actionnaires, à leurs machins, à leurs clients, voilà. Ils doivent essayer de prendre des formes, même si c'est de moins en moins le cas. Mais les politiques, c'est... Eux, ils n'ont pas ça. Donc, en fait, surtout quand Emmanuel Macron, vous avez un ego surdimensionné et la certitude d'être le nouveau De Gaulle, si ce n'est le nouveau Napoléon. Donc vous avez vraiment voilà, il se lâche, quoi. Et donc, ça dit des choses assez intéressantes du point de vue de la thèse que je défends.
Alors, n'oublie pas de tenir, bien que tu as la voix qui porte, je pense que ça peut aller. Non, mais ça peut aller. Alors, ça nous amène à... Il est un des chantres, et puis on l'oublie maintenant, parce que le livre va bien au-delà de... Enfin, voilà, Macron, tu dois en parler deux fois. Donc, voilà, c'était juste pour la bonne bouche et la bonne blague. On en vient à ce technosolutionnisme qui est aujourd'hui le Graal, et notamment avec l'intelligence artificielle. On sent tous que ça nous mène dans le mur. Mais toi, tu nous expliques pourquoi. Alors d'abord, en quoi c'est une supercherie dont tu dis que sa logique de croissance... rappelle un petit peu celle de la croissance verte, justement, c'est-à-dire que c'est une supercherie et qu'elle ne va pas résoudre la question à trois corps dont tu parlais au début.
Alors, l'intelligence artificielle, c'est effectivement l'espoir aujourd'hui des capitalistes. Et pour une raison très simple, c'est que l'intelligence artificielle, elle a cette proposition très forte de dire on va automatiser les emplois de service. C'est-à-dire ce qui ne s'automatisait pas jusqu'ici. Et donc, on va gagner, on va faire des gains de productivité sur des emplois où, jusqu'ici, il n'y avait pas de gains de productivité ou très peu de gains de productivité, en fait. Hein. Les emplois de service, c'est très difficile, en fait, d'avoir des gains de productivité parce que, d'abord, c'est très difficile à mesurer. Et ensuite, souvent, quand on essaye d'avoir des gains de productivité, bah, en fait, on dégrade le travail. Et donc, l'intelligence artificielle, elle dit, bah, en fait, moi, comme je remplace l'humain par une machine... Je fais des gains de productivité, évidemment, immédiatement. Donc ça, c'est le rêve du capitaliste. Alors, moi, je suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle. Ce que je vois, c'est que ça, c'est un objectif. Est-ce que ça va être réalisé ? Ça reste à voir. est-ce que ça va foirer ? C'est aussi tout à fait possible. Et on voit même, y compris d'ailleurs sur les marchés aujourd'hui, qu'il y a des doutes là-dessus, sur la capacité de l'intelligence artificielle à remplacer l'humain dans ses emplois de service. Parce qu'il faut bien comprendre que l'enjeu, ce n'est pas d'avoir ChatGPT qui répond à vos questions en un quart de seconde. Ce n'est pas ça l'enjeu. Ça, c'est du jouet. Ça, c'est bien, et ça a une fonction, on va y revenir, mais c'est pas ça l'enjeu économique. L'enjeu économique, c'est de pouvoir remplacer un comptable, une aide ménagère, une aide dans un EHPAD par des machines. C'est ça la fonction finale de l'intelligence artificielle. Et là, on n'y est pas encore tout à fait. Donc ça, c'est la première chose. Et ce qui fait qu'il faut se méfier, quand même, c'est que cette promesse-là, on nous l'a déjà faite pour Internet et l'informatique. Dans les années 80, dans les années 2000, on nous a expliqué que l'informatique et ensuite Internet allaient régler tous les problèmes économiques, etc.
Et tu rappelles donc la bulle Internet, etc. Mais tu dis quand même que là, il y a un risque que ça marche.
Oui, enfin, moi, je peux pas encore une fois...
De leur point de vue, j'entends. Hein.
On est en 2025, donc je ne vais pas dire, effectivement, 26. Qu'on va... 2026, oula. Ça, je ne suis pas sorti de l'écriture, on est en 2026, pardon. Et donc, je ne suis pas sorti... Je ne peux pas dire ça va marcher. Il y a un risque que ça ne marche pas, mais il faut prendre l'hypothèse aujourd'hui, que ça va marcher. Marcher, c'est, encore une fois, comme tu l'as dit, du point de vue du capital. Alors, si on développe cette idée-là, bon, bah, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'effectivement, on va faire avoir des gains de productivité considérables. Mais le problème, c'est... En fait, les gains de productivité, c'est bien, ça produit de la valeur. Mais cette valeur, à quoi ça sert ensuite ? Dans un système capitaliste classique, celui de Ford, ou avant celui du capitalisme manchestérien, les gains de productivité qu'on réalisait, on les réinvestissait en fait dans l'outil productif. Et donc, comme ça, on entretenait à la fois l'emploi... Et la croissance. Là, le problème, c'est qu'en dehors
parce que l'ouvrier achetait quand même ce qu'il produisait. Enfin,
exactement.
Il mettait sa vie.
Il achetait ce qu'il produisait. Voilà. Il devait acheter les nouveaux produits qu'on fabriquait à partir des nouvelles techniques. La publicité, le marketing était là pour... est toujours là, d'ailleurs, pour s'assurer. Et donc, il y avait une sorte de cercle vertueux. Là, le problème, c'est qu'en dehors... Et d'ailleurs, on le voit très bien dans la structure de l'économie américaine actuellement. C'est-à-dire qu'en dehors de l'intelligence artificielle, les sources de croissance sont très faibles, en fait. Et elles sont notamment très faibles dans l'industrie, parce que, en fait, la mécanisation est tellement élevée qu'aujourd'hui, pour faire du bénéfice dans l'industrie, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Donc, le réinvestissement dans l'industrie et dans d'autres activités qui feraient des gains de productivité n'est pas évidente. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Ben, en fait, vous vous retrouvez avec des gens qui sont remerciés parce qu'ils sont remplacés par des machines. Et à ce moment-là, il y a deux choses. C'est-à-dire que, bon, une partie va se retrouver au chômage, OK, avec peu de possibilités de trouver d'autres choses. Et puis une grande partie, en fait, va être déplacée vers tout ce qui n'est pas rentable d'être automatisé. C'est-à-dire vers les emplois les plus difficiles à faire, en fait. Les emplois où on a besoin, en fait, de la force physique ou de l'homme, et qui ont une valeur ajoutée extrêmement, extrêmement faible. Donc, puisque, en fait, toutes les choses à valeur ajoutée extrêmement élevée seront faites potentiellement par l'intelligence artificielle. Donc, on va avoir une paupérisation, en fait, de la masse des travailleurs. Une paupérisation parce que, précisément, aujourd'hui, les bénéfices de l'intelligence artificielle, où est-ce qu'elles vont aller ? Elles vont aller soit dans la rente, notamment la rente techno, et la bulle de l'intelligence artificielle, ça n'est rien d'autre que ça. En fait, la bulle de l'intelligence artificielle, c'est quoi ? Ce sont les grandes techno-rentes qui fabriquent des data centers de plus en plus énormes pour disposer des infrastructures qui leur assureront, en fait, le maintien de leur rente. Et l'autre élément qui est difficile, c'est qu'en fait, à la différence du schéma qu'on a décrit précédemment, où en fait la rente reposait principalement sur de l'immatériel, hein, la propriété intellectuelle, ce genre de choses, bah là, en fait, ça va reposer sur du matériel, c'est-à-dire les data centers. Or, les data centers, ça a une durée de vie très limitée. Il faut les entretenir. Ça coûte évidemment beaucoup d'argent. Et donc, au bout d'un moment... Une fois qu'on aura réalisé le remplacement par l'intelligence artificielle, les bénéfices vont commencer à s'abaisser et on va se retrouver en fait au point de départ où on était. Donc, sur le plan économique, l'intelligence artificielle ne résout pas du tout le problème. Sur le plan écologique, je ne fais pas de dessin, on peut y revenir, mais on sait que c'est un désastre et ça va l'être encore plus. Donc, c'est aussi... Il faut réfléchir aussi dans le cadre de ce problème à trois corps. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle, c'est quoi ? C'est l'idée qu'on peut régler tout en réglant le problème économique. Or, pas du tout, parce qu'en fait, on va avoir effectivement une fuite en avant écologique avec ce problème. Et j'ai vu que quelqu'un me disait qu'il y avait la septième limite qui avait été dépassée en 2025, et il a raison. Donc, on a effectivement un monde qui est totalement insoutenable. Et puis évidemment, la crise anthropologique, ça c'est quelque chose qui est aussi très, très important. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle propose quoi ? Et ça, indépendamment d'ailleurs de ce qu'elle va être sur le plan économique, elle propose en fait de réfléchir à notre place, en fait. Et donc elle va imposer à l'homme un monde qui est celui de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire du capital, et pas celui de l'homme. Donc en fait, c'est une machine qui vient en fait remplir le temps humain pour détruire en fait ce qui reste de vivant, de réellement humain dans la vie des hommes sous le capital. Et ça, évidemment, ça provoque une crise parce que on reste quand même des humains, de chair et d'os et avec des sentiments et avec des choses. Et ça va entrer en fait en conflit avec la logique de l'intelligence artificielle qui va en fait avoir pour vocation de venir remplacer notre cerveau, tout bêtement. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important et qui est en fait le signe que l'intelligence artificielle n'est rien d'autre qu'une fuite en avant technosolutionniste. C'est exactement la même chose que le message de Doritos vers les extraterrestres potentiels.
je vois que le chat s'anime par rapport à l'IA et je vois que Uriel, notre modératrice en chef, qui déteste de tous les pores de sa peau l'IA, va sans doute t'écouter par rapport j'entame un petit peu la fin du livre et de notre conversation sur les lignes de fuite, et notamment sur l'IA. Tu dis, là, il n'y a pas de demi-mesure, il ne faut absolument pas l'utiliser. Hein, tu dis, il faut un refus massif. Je ne te demande pas si dans la vie privée tu l'utilises ou pas, mais quand même...
Alors moi, je vais dire franchement, et je le fais sans aucune coquetterie, parce que par ailleurs, j'utilise les smartphones, les trucs, machin. Je suis aussi en partie aliéné, mais je n'ai jamais utilisé l'IA... je n'ai jamais utilisé l'IA consciemment. Après, on l'utilise inconsciemment.
Oui, bien sûr.
Parce que effectivement, maintenant, ça devient intégré dans les applications et les utilisations qu'on a en termes informatiques. Et c'est aussi la perversion de la chose, c'est que ça va être imposé. Donc c'est là où effectivement, si on ne fait rien contre la logique du capital, de toute façon, on ne pourra pas, à titre individuel, avoir une position de principe. On peut l'avoir, mais en réalité, elle sera très largement une position qui tiendra pas la route, parce que de toute manière, on sera amené à l'utiliser quoi qu'il arrive, parce que maintenant on a des bots IA sur les sites quand on veut aller, je sais pas, on veut aux allocations familiales ou à France Travail, au machin, voilà, on parle avec des IA. Bon, voilà, moi j'utilise pas ChatGPT, mais je veux dire, en fait, on est obligé d'utiliser les autres. Donc c'est aussi ça que, pour introduire peut-être la dernière partie, hein, c'est que on peut pas avoir une position de résistance qui soit une position purement individuelle, de posture en quelque sorte. Donc évidemment, on a chacun un peu ses coquetteries personnelles et voilà. Mais en fait, c'est pas par des postures individuelles qu'on peut réellement engager alors, quelque chose qui soit important.
Quoi. Oui, alors là, c'est vraiment la fin du bouquin. On y vient. Et qui va répondre à... Il y a eu beaucoup de questions pendant notre conversation sur alors comment on sort de cet enfer, comment on peut casser la machine. D'ailleurs, à propos de casser, tu parles du mouvement ludiste à un moment donné. Mais je voudrais quand même parler d'un petit truc, page 223, dans le chapitre « Le capitalisme d'état d'urgence ». Tu écris au début des années 2020 en France et souvent, dans la plupart des pays de la sphère occidentale, pas une semaine ne s'est écoulée sans que des polémiques instrumentalisées par l'extrême droite occupent le débat public. Un jour, à propos de la collusion entre l'audiovisuel et la pensée de gauche, un autre de l'utilisation de l'allocation de rentrée scolaire pour acheter des écrans plats, ces paniques morales, écris-tu, souvent absurdes, sont montées en épingle par un secteur de médias économiquement zombifié et aux mains de grands capitalistes. Mais, alors c'est là où je trouve ça très intéressant, mais, tu nous dis... On se trompe souvent en insistant sur les capacités médiatiques. Si les médias d'extrême droite ont désormais pignon sur rue et si leurs obsessions sont souvent répercutées par les médias mainstream, c'est parce qu'ils sont d'abord le symptôme d'une crise au sein du capital. Alors là, tu nous amènes à, comme dirait un dénommé Plenel et Louis, penser contre nous-mêmes.
Non, pas forcément, mais ce que j'explique, c'est... Enfin... Moi, je pense pas que la lutte contre les médias bolorés pour aller très vite soit inutile, bien au contraire, mais à condition de comprendre d'où ça vient, en fait. Et c'est rejoint, en fait, la sixième partie dont on va peut-être parler. C'est-à-dire qu'un des éléments sur lesquels j'essaye d'insister, hein, c'est ce que Marx explique dans un texte célèbre où il dit, en fait, il faut... lutter contre les effets, évidemment, du capitalisme. Mais il faut que cette lutte contre les effets, ce soit une lutte qui nous amène à réfléchir aux causes des effets. Et c'est ça, en fait, moi, que j'essaye très modestement de mettre en avant. C'est-à-dire que si un jour on se débarrasse des médias Bolloré et qu'on ne change pas, en fait, la situation par ailleurs... en fait, on aura d'autres médias. Et d'ailleurs, il y a des mini-Bolloré qui se développent, Sterrain, tout ça, voilà, qui viennent. Et si ce n'est pas des Bolloré, ce sera en fait des Arnaud. Et si ce n'est pas des Arnaud, ce sera l'audiovisuel public. Parce qu'au bout d'un moment, l'audiovisuel public sera aux mains d'un État qui lui-même, en fait, jouera la carte du capital. Donc, il y a aussi cette logique qui est au sein du capital et qui... Enfin, un des points sur lesquels j'aime bien insister, hein, c'est de dire que, en fait, souvent on dit le grand capital. Alors évidemment, le grand capital, c'est le plus actif, mais le petit capital, il a son rôle aussi à jouer, notamment de façon agrégée, dans cette logique-là. Et lui aussi, le petit capital, il exploite, il aliène, il est violent, il est destructeur. Et c'est pas parce qu'il est petit qu'il n'est pas... alors, si il est tout petit, voilà, mais... En fait, en agrégé, il joue aussi ce rôle-là. Et donc, l'idée qu'il y a derrière, c'est de dire, moi, je suis, encore une fois, le premier à vouloir mener la lutte contre les médias Bolloré, mais pas en faire une fin en soi, en fait. En faire le début de quelque chose qui permette, en fait, de ne plus être soumis précisément à cette pression permanente en fait d'une extrême droite qui est la roue de secours du capitalisme en crise.
Alors comment on attaque le capitalisme puisque c'est le père de tous les maux. Si je t'ai bien lu, tu nous expliques que, bien évidemment, il faut... alors d'abord, tu nous rappelles ce que tu as dit tout à l'heure, que la lutte des classes, ça existe, et c'est toujours là. Mais tu nous dis, en fait, face à un problème à trois corps, face à un problème total, il faut être total. C'est ça, sans aucune référence à la compagnie pétrolière.
Non, c'est Total Energy, donc.
Oui, voilà. Donc, ah oui, c'est vrai. Total Energy verte. oui, très bien. Et en gros, tu nous dis... Oui, bien sûr, le combat féministe, oui, bien sûr, le combat antiraciste, oui, bien sûr, ces combats doivent être menés, mais en fait, il y a un combat, si j'ai bien compris, premier, qui doit primer, qui doit être le guide de tout ça, c'est de lutter contre le capitalisme.
Alors, juste pour... je ne sais pas si je suis très clair dans le livre, donc je vais essayer de l'être là et de profiter de la tribune que tu me donnes pour l'être. Vraiment, il n'y a pas d'idée que ces combats-là sont des combats secondaires. Ce sont des combats qui vraiment ciblent des vrais problèmes au sein de la société et parfois des problèmes qui dépassent la question du capitalisme. La question du patriarcat, c'est une question qui dépasse en fait celle du capitalisme et d'une certaine façon, on peut imaginer une société non capitaliste mais qui reste patriarcale. Donc ce sont des vrais combats qui en fait s'inscrivent au-delà d'une certaine façon du combat capitaliste. Mais là où j'essaye d'expliquer, c'est que le chaos actuel et j'aime pas le mot dérive, mais disons l'évolution autoritariste, patriarcale, réactionnaire du capitalisme et raciste d'ailleurs du capitalisme actuel, il a une source au sein du capitalisme. Et donc, encore une fois, c'est un peu aussi l'idée de pouvoir articuler toutes ces luttes pour justement combattre ces causes-là. Et effectivement, je rebondis sur ce que tu as dit, si la société est organisée par le capital comme je le crois, bah, la lutte contre le capital, elle doit être effectivement une lutte qui est totale. Elle doit intégrer toutes ces luttes-là qui, encore une fois, peuvent dépasser la lutte anticapitaliste, c'est-à-dire que les luttes féministes, antiracistes, etc. Enfin, la lutte anticapitaliste n'épuise pas ces luttes-là, mais s'inscrivent aussi dans ce cadre-là. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une nécessité d'avoir une lutte qui soit une lutte pour la totalité, c'est-à-dire une lutte, en fait, pour l'organisation de la société en tant que telle. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est la seule réponse à un capitalisme qui a colonisé, en fait, non seulement la planète, mais nos vies quotidiennes et l'intégralité de notre environnement.
Alors, il y a un appel à la révolution, quasiment page 269. C'est donc bien la pratique de la lutte et de la contestation, par tous les moyens et sans discontinuer, qui est le seul chemin possible pour construire une conscience de la situation globale et de son urgence. Et pourtant, quelques pages plus loin, mais là, je crois que je ne l'ai pas noté, mais ce n'est pas grave. Je l'ai... Attends, je regarde quand même si je ne l'ai pas. Il me semble que je l'avais en mémoire. Ah si, c'est ça. Reste une dernière question. Qui doit agir? Alors là, on démarre l'émission.
Ouais, bah, en fait, c'est...
c'est le prochain bouquin.
En fait, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est un peu expliquer pourquoi j'ai fait cette sixième partie, donc qui est une sixième partie qui essaye, en quelque sorte, de donner le cadre de ce que pourrait être un combat contre le problème à trois corps. C'est que j'aurais pu m'arrêter, en fait, à la fin au capitalisme d'état d'urgence. Je suis assez content de ma formule, donc ça aurait pu tomber là-dessus. Voilà, très bien. Et puis, débrouillez-vous avec ça, quoi. Mais en fait, bah, moi, je trouve que c'est pas dans notre camp, entre guillemets, hein, le camp de l'émancipation. On peut pas se contenter de ça, en fait. Le camp de l'émancipation, c'est le camp de l'humanisme et c'est le camp de la croyance dans l'espèce humaine et dans la capacité de l'espèce humaine à réagir. Donc, il m'a semblé nécessaire de pas terminer sur le fait qu'on était enfermé dans un système dont on ne pouvait pas sortir. Le point de départ du livre, c'est aussi d'expliquer que le capitalisme est un mouvement historique, est un phénomène historique. En tant que phénomène historique, il est construit par les hommes, et même si, à la fin, les hommes abdiquent leur liberté pour le capital, il est construit par les hommes. C'est une abdication volontaire. Donc, ce qui a été construit peut être déconstruit et détruit, et dépassé. Et donc, c'est ça que j'essayais de dire. C'est-à-dire, d'abord, ça peut l'être, et à ce moment-là, il faut réfléchir quelles sont les conditions pour que ça puisse l'être. Et finalement, les conditions, c'est d'exprimer une lutte constante contre la totalité qui est à l'origine, à mon sens, de la conscience de cet enfermement dans le capital et qui permet à ce moment-là d'ouvrir une fenêtre dans la pièce dans laquelle on est, où en fait il y a plus de portes et de fenêtres, et où on se cogne les murs en permanence, on se cogne la tête contre les murs en permanence en essayant de chercher des fausses solutions. Et donc là, en fait, par la lutte et par la compréhension des enjeux, justement par la recherche des causes des effets, hein, comme je l'ai dit, bah, en fait, on ouvre une porte et on y va. Alors, qui doit agir ? Moi, encore une fois, j'ai pas de, je le fais de façon très modeste. C'est-à-dire, je n'ai pas du tout de vocation à être, et je le dis très fortement, un gourou des masses. Je pense que c'est ça, en fait, même en grande partie, le problème des luttes aujourd'hui. C'est vraiment de dire... Enfin, il y a une phrase d'Anton Pankoek, hein, qui est un penseur conseilliste néerlandais que j'aime bien, qui est que en fait on pourra pas dépasser le capitalisme si en fait les travailleurs ne veulent pas le faire, en fait. Donc à un moment, c'est aussi de redonner un des points sur lesquels j'essaye d'insister, c'est que le dépassement du capitalisme, c'est le retour de la liberté, c'est-à-dire c'est se débarrasser de ce capital qui décide pour nous de la plupart de nos actions sociales.
La tâche est complexe, puisqu'il faut combattre, écris-tu, page 292, l'aliénation depuis l'aliénation.
Exactement. Et c'est donc extrêmement...
Ah, c'est ce qu'il a écrit.
Oui, mais c'est... je suis d'accord avec moi-même, j'en suis fort heureux. Mais c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement complexe. Mais encore une fois, je pense qu'il faut avoir à la fois un sens de la responsabilité, c'est-à-dire si on veut... réellement sortir de la nasse dans laquelle on est, eh ben en fait il faut prendre ses responsabilités et s'engager dans cette voie-là, et puis aussi prendre la conscience de la complexité. La complexité n'est pas souvent... la complexité est présentée comme une incapacité à agir. Ah, c'est trop complexe, on peut rien faire. La complexité, ça se construit, ça s'explique, ça se déconstruit, ça se travaille, voilà. Et ça veut dire que aussi la lutte contre cette complexité, elle doit être elle aussi complexe, organisée à plusieurs niveaux. Voilà, il y a un niveau international qui est, à mon avis, totalement incontournable, mais il y a des niveaux locaux. L'idée, c'est toujours en fait de dire... en fait, ce que je le fais avec un but déterminé qui est celui modifier le centre de la société. Ce que j'essaye de dire à un moment, en renversant la fameuse formule de Bernstein, du révisionniste Bernstein, qui disait en fait le but n'est rien, le mouvement est tout. Moi, j'ai tendance à croire qu'en fait c'est le but qui est tout. C'est-à-dire savoir en fait que notre but, c'est précisément de modifier le centre de gravité de la société, de sortir de l'attraction du problème à trois corps. Et pour ça, en fait, après, il y a plein de moyens. Les gens, les gens agiront, ils trouveront, ils se tromperont, ils feront des allers-retours, des choses. Après, il y a un vrai problème, je ne vois pas le cacher. Hein, je veux dire, l'optimisme n'empêche pas le froid réalisme. C'est qu'on a un problème de timing. C'est que la crise, en fait, causée par ce problème à trois corps est de plus en plus forte. Et donc, on n'a pas tout notre temps, à la fois en termes écologiques, mais aussi, on le voit, en termes de développement politique. Mais pour terminer, si, excuse-moi encore, je suis un peu en truc, mais je pense que, par exemple, aujourd'hui, la lutte antifasciste, elle doit aussi s'inscrire dans cette réflexion autour du dépassement du capitalisme. C'est-à-dire qu'en fait, on combat le fascisme comme un des symptômes de la crise du capitalisme. Et donc, dans ce combat contre le fascisme, c'est finalement ce qui a été fait pendant la guerre par le Conseil national de la Résistance. Alors, pas en tant que forme anticapitaliste, mais en tant que forme de modification du capitalisme. Aujourd'hui, on sait que ça n'a pas fonctionné durablement, mais voilà.
Je ne dirais pas non plus que c'est un échec.
Non, ce n'était pas un échec, mais ça n'a pas fonctionné durablement puisque le fascisme revient. Donc aujourd'hui, on doit aussi retenir cette histoire-là et dire, dans notre lutte antifasciste, on doit intégrer en fait cette dimension de, une fois qu'on aura vaincu le fascisme, eh bien, on devra construire un monde qui ne donne plus lieu à ce fascisme et qui permet, en fait, ça ne sera pas le paradis, hein, le paradis sur Terre n'existe pas, mais qui permettra en fait de construire un monde où on soit au moins responsable et libre et où on puisse essayer de vivre en harmonie avec la nature et avec les autres êtres humains.
Je te suggère, si tu as le temps, d'aller voir la rediffusion de cet entretien sitôt la fin, puisque maintenant c'est automatique, sans IA, sur auposte.media. L'émission est tout de suite là, juste après le live. Je t'invite à la, non pas pour te regarder, bien sûr tu peux, mais pour lire passionnément la passion du chat ce matin, qui n'est pas toujours d'accord avec toi. J'essaie de temps en temps de remonter des petites choses, mais je trouve ça absolument passionnant. Et voilà, c'était vraiment un très bel exercice. On a deux questions rituelles pour terminer. Ah, t'as l'air de respirer là.
Non, ça va,
tout va bien. Une question alors toute simple. Et là, je m'adresse peut-être à celui qui entame la plupart de ses chapitres par le théâtre. J'ai trouvé ça assez étrange. Enfin, étrange au sens inattendu. Je m'attendais pas à voir Shakespeare débouler, revenir, repartir dans un autre sens et d'autres, etc. Bref, as-tu un conseil culturel, que ce soit un disque, un film, un livre, une application, un vieux machin un truc tout neuf, un collègue de Mediapart, je ne sais pas quoi. Est-ce que tu as une série
Je ne regarde pas beaucoup de séries, j'avoue. Je me suis forcé à regarder le premier à trois corps, je l'ai trouvé ça nul, donc je n'ai pas... Bon, bref, je suis pas très... J'essaye de ne pas trop être dépendant de ce genre de choses, mais encore une fois, ce sont des coquetteries personnelles. Non, mais... Bon, ce livre, on n'en a pas trop parlé, mais il est très inspiré par Guy Debord.
Oui, bien sûr.
Qui est un auteur important, qui est souvent caricaturé, en fait, limité au terme un peu galvaudé de société du spectacle et de spectaculaire. Et enfin, pour moi, Debord, c'est vraiment un penseur marxiste et c'est un penseur révolutionnaire.
La société du spectacle, c'est pas le spectacle. Hein.
Non,
c'est pas le divertissement.
C'est pas le divertissement.
C'est pas ça.
Et d'ailleurs, je rappelle, Franz-Olivier Gisbert, à la fin des années 80, nous expliquait que le spectacle avait toujours existé, Louis XIV, etc. Bah, évidemment, il a rien compris. Quoi.
Ouais,
mais... Donc, mais comme toujours. voilà, moi, le seul conseil que je peux donner, c'est vraiment d'y revenir, d'y aller vraiment. Alors, c'est pas une lecture toujours très facile. Mais en tout cas, les premiers chapitres de la Société du spectacle me semblent être un texte aujourd'hui extrêmement important parce que, moi j'ai été, je suis frappé, en fait, je le lis depuis 30 ans maintenant et en fait je le relis et à chaque relecture je suis frappé vraiment par son actualité.
Je dirais que le commentaire sur la Société du spectacle est peut-être plus...
Du 88, oui, les commentaires
de 88,
sur le sujet.
Voilà, et peut-être plus facile d'accès.
Plus facile d'accès, mais en fait, je pense que c'est difficile de comprendre la subtilité des commentaires si on n'a pas lu,
la société. Bien.
Et effectivement, ça peut même donner lieu à des interprétations un peu hasardeuses, on va dire, parce qu'on n'a pas, en fait, lu le début. Vraiment, c'est le texte de 67, parce que vraiment... Moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai l'impression que le texte de Debord en 67 est un texte exagéré par rapport à la société de 67. Et qu'en fait, il est exactement dans les clous par rapport à la société de 2026. Donc, c'est pour ça que moi, je peux que encourager chacun à revenir à ce texte de façon très... en oubliant tout ce qu'on entend sur le spectacle, etc. Les récupérations, parfois, à l'extrême droite, etc., qui sont un peu hallucinantes. Et de revenir vraiment au texte et d'essayer de vraiment de s'en imprégner.
Ultime question, avant de te lâcher pour aller rejoindre cette belle maison qui est Mediapart, avec une conférence de rédaction probablement qui doit démarrer, j'imagine, à 10h, un truc comme ça. Enfin, je sais pas.
Et
voilà.
Exactement.
Et ben voilà, donc tu vas avoir le temps. Question rituelle, il est 9h27. Nous avons passé, et c'était fort, fort, fort agréable, 1h27 ensemble. Qu'est-ce que nous avons fait, Robert Godin?
Oh ben, on a discuté, ça c'est pas mal. On a essayé de comprendre notre époque, ce qui n'est pas évident. Et j'espère, alors évidemment, j'ai pas eu le temps de regarder les commentaires, mais effectivement, en les regardant après, j'imagine que voilà, il y aura des lignes de discussion intéressantes et je pense que c'est aussi ça qu'il faut qu'on fasse de plus en plus aujourd'hui, c'est qu'on prenne le temps aussi d'essayer de voir où on en est, de comprendre où on en est, parce qu'un des problèmes, c'est que, et c'est bien normal, on est souvent dans l'urgence, parce que il y a ce phénomène de crise, donc on essaye de réagir un peu dans l'urgence, etc. Mais parfois, c'est bien d'avoir, de prendre un peu de recul pour pouvoir savoir exactement où on va. Et bah voilà, ce type d'émission nous aide à avancer dans cette direction. Donc, je te remercie de ton invitation.
Merci à toi, Théophile, qui est en régie. À toi de jouer. Tu coupes, t'envoies la page crédit. Et merci à toi d'être avec nous, d'ailleurs.
Les amis, nous sommes sur opposte.fr. Abonnez-vous, abonnez-vous. Les amis, c'est David Dufresne. Abonnez-vous, c'est important. Bon, la technique, c'est pas toujours ça. C'est artisanal, on est entre nous. C'est opposte.fr.
Attention, oui. Ça va être dans le clip.
Postez-vous l'abonnement. Non, abonnez-vous à Opposte.
J'encourage, faites un don à Opposte. Ah non, c'est là la caméra.
Adonnez-vous Opposte. Adonnez-vous Opposte.
Et faites des dons à Opposte. J'espère que tout le monde dans le chat, que tout le monde ici fait des dons à Opposte. Il faut donner
des
l'argent
dons, abonnez-vous. Pour que ça existe.
Amis du café, amis de la police, adonnez-vous opposte.fr, opposte.fr. Adonnez-vous.
On vous remercie tous pour vos dons, c'est cool.
Désarmer le récit, c'est important. Ça passe par quoi? Ça passe par muscler les médias indépendants. Voilà, soutenir Opposte.
Abonnez-vous.
Donnez plein d'argent.
Il a raison, abonnez-vous à Opposte et à Mediapart, ou deux.
Abonnez-vous.
N'oubliez pas, on a besoin de dons et de donateurs. Merci beaucoup.
Opposte.fr. Y'a pas mieux.
Ah, on se moque de moi là. Bompard soutient Opposte, mais devant la mauvaise caméra. Celle-là, elle est bonne ou pas? Faites un don à Opposte. Il ne faut pas que ça soit qui reste. Donc, je disais, il faut bien que vous provoquiez du débat, il faut provoquer du sujet. Pour provoquer du sujet, il faut créer de la conflictualité.
Mais comment je vais rester indépendant si Bompard, il demande aux gens de faire un don?
Oh, ouais, c'est vrai ça.
Tout ça n'existe que grâce à vous, parce qu'on est indépendant et on ne vit que grâce aux dons. Donc, voilà. Merci.
Et abonnez-vous
opposte.fr, opposte.fr.
Bravo. Bravo. Abonnez-vous opposte.fr, opposte.fr.